Un enfant de 2-3 ans, du coup, ouais, c'est un enfant propre, mais qui sait pas encore s'habiller tout seul, mais qui a très très envie de le faire, qui parle, qui communique, qui ressent des choses, mais qui ressent des choses très fort dans les deux sens. Et c'est un enfant qui va rentrer à l'école, donc il commence carrément à l'autonomie et tout, et qui a bien compris ça, en fait. Du coup, qui a envie de se dire, mais en fait, je peux tout faire tout seul, et... Bah non.
Alors déjà, dans l'enveloppe corporelle, c'est déjà très mignon. Donc c'est un bon point pour eux, un mauvais point pour nous, parce qu'on se laisse facilement... avoir. C'est vrai que bah, sur son vocabulaire qui n'est pas encore très étoffé, nous on joue un petit peu les détectives pour savoir ce qui se passe un peu dans son esprit.
Parce que ma fille, elle n'a pas du tout fait de terrible tout quand j'y réfléchis. Après, je pense que en tant que parent, on oublie et c'est pas plus mal.
Il a quel âge?
Il a 3 ans.
Il va avoir 4 ans.
Il va avoir 4 ans au mois de mai. Il commence à dire non.
Mais il fait des crises de jalousie.
Ouais. Ça s'apparente à une crise d'adolescence, mais alors qu'il a 3 ans.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je pense à un poème qui est célèbre pour son premier vers. Ce siècle avait 2 ans, Rome remplaçait Sparte, déjà Napoléon perçait sous Bonaparte. C'est Victor Hugo qui raconte sa naissance. Comme il est né en 1802, il précise que le siècle avait 2 ans. Je pense à ce poème parce qu'il offre à cet âge-là toute la grandiloquence et le tragique qu'il mérite. C'est quelque chose tout de même, les 2 ans. Nous parlons cette semaine des 2 ans de l'enfant. Rien à voir avec Victor Hugo donc. Ce moment où un bébé trop mignon se met à dire non tout le temps, à hurler, voire à se rouler par terre à la moindre frustration, à ne plus jamais être d'accord pour rien. J'en rajoute ? Peut-être. Pas sûr. La phase d'opposition peut commencer avant la 2e bougie et durer plus ou moins longtemps. Elle n'est pas la même pour tous les enfants, évidemment. Mais la vie quotidienne peut parfois devenir très compliquée. Alors parlons-en. Mes invités ont des conseils pour affronter en tant qu'adulte cette période de contestation ou de rébellion. Comment accueillir les émotions de sa progéniture tout en posant un cadre, en traçant les limites qui vont l'aider à grandir. Votre enfant a 2 ans, bienvenue dans le Terrible Tout.
Barbatrick.
Dorothée Barba.
France Inter.
Le terrible tout, c'est donc la crise des 2 ans. Ça sonne un peu mieux peut-être que le terrible 2. Mes excuses à ceux et celles que les anglicismes exaspèrent. Il y en a beaucoup parmi les auditeurs de France Inter. Bonjour Benjamin Muller.
Bonjour Dorothée.
Bienvenue, vous êtes journaliste, chroniqueur de la maison des maternelles sur France 2, père de 3 enfants. Vous savez qu'on est dans une période très sensible en termes de temps de parole politique, à une semaine maintenant du premier tour de la présidentielle. Mais je crois avoir le droit de parler de Paul.
Vous pouvez citer Paul, ouais.
Il habite à l'Élysée, c'est un personnage de fiction, héros de votre roman paru chez Flammarion Jeunesse, illustré par Mathieu Sapin. Ça s'appelle Le Palais de Paul. Alors Paul a 7 ans et c'est le fils du président de la République. Et il y a une chose entre autres que j'ai retenue, Paul n'aime pas du tout qu'on appelle sa mère la première dame.
Eh bien non, si elle c'est la première dame, c'est-à-dire que lui c'est le premier fils, mais elle est première dame, c'est-à-dire que c'est la mère de tous les Français. Et c'est exactement ça, je me suis amusé à imaginer ce que pouvait être la vie du fils du président. En fait, vous vous souvenez que Nicolas Sarkozy, son fils qui s'appelle Louis, avait à peu près cet âge-là, et je crois qu'une fois il avait jeté des petits cailloux sur une policière, on en avait fait tout un truc, et je me souviens que tout le monde disait bah, Sarkozy il sait pas élever ses gosses et tout, et moi je me disais mais c'est horrible, ça reste un gamin qui est dans le palais de l'Élysée, donc voilà, je me suis amusé à faire ça.
Et le petit Paul va à l'école avec quelques gardes du corps.
Et bien sûr, un garde du corps qui s'appelle Léon, hommage au film bien évidemment.
Ce livre est tiré d'un podcast que vous produisez avec Céline Kallmann qui s'appelle Encore une histoire, des histoires pour les enfants à écouter avant de s'endormir ou dans la voiture, c'est très commode dans la voiture. Quel âge a le public de votre podcast?
Justement, on va dire qu'il y a 2 types d'histoires. Il y a les histoires pour les plus petits, ça commence à 2 ans. 2, 4 ans et demi, 5 ans. Et puis après, pour les un peu plus grands, le palais de Paul, c'est pour les un peu plus grands. Mais dès 2 ans, on se rend compte que les enfants sont très captifs. Ils aiment bien écouter des histoires, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Et puis, ce sont des histoires sans écran, qui passe uniquement par les oreilles, ça n'est pas un détail. Vous allez publier dans quelques semaines chez First Devenir papa pour les nuls, Benjamin Muller, le terrible 2, le terrible tout, vous connaissez vous?
Ouais, mais ça dure, c'est une fumisterie, sinon ça commence à 18 mois, ça se termine à 6 ans et demi avant l'âge de raison.
Ne commencez pas comme
ça. Je commence pas, moi je suis quelqu'un d'optimiste et de positif, mais oui, je connais bien. Et d'ailleurs, vous avez dit, nos invités ont des conseils à vous donner, ils ont aussi besoin de conseils. Donc moi là, je suis venu en thérapie de groupe. Merci.
2 autres invités dans ce studio, ils sont psychologues. Bonjour Aurélie Calais.
Bonjour.
Bonjour Clémence Promsy.
Bonjour.
Bienvenue à toutes les deux. Vous avez fondé ensemble un cabinet. Vous recevez des parents et des familles. Et le titre du livre que vous avez écrit ensemble, c'est « Je ne veux pas », édition Debuck. C'est un bon résumé du Terrible Tout, « Je ne veux pas ».
Oui, parce qu'en fait, on s'est dit qu'en une seule phrase, comment est-ce qu'on peut résumer ce que disent les enfants vers l'âge de 2 ans? Alors, c'est ou non, ou je veux pas, la maison d'édition a pas voulu qu'on mette la négation, c'était plus français, nous on voulait que ça s'appelle je veux pas. Ils ont pas voulu, mais voilà, ça résume bien quand même.
Alors, vous rappelez en introduction cette phrase célèbre de Freud à une patiente en matière d'éducation, disait-il. De quelque façon qu'on s'y prenne, on s'y prend mal. Je trouve c'est pas mal de démarrer un peu avec de l'optimisme. Clémence Frampsy.
Oui, c'est vrai. Alors, je rejoins Benjamin. Nous, on s'est toujours vanté avec Aurélie d'être maman et d'être un jour parfaite et un jour de vraie catastrophe en tant que maman. Et je pense que le métier de parent, c'est surtout de se réinventer et de se poser des questions parce que on en est tous rendus, même quand on est psychologue pour enfants, à faire de notre mieux. Et on sait qu'on paiera quand même l'addition à 25 ans.
Et encore, les jours où on est parfaite, c'est quand même pas souvent.
On n'est pas obligé de donner la proportion.
Ah oui, c'est ça.
Est-ce que vous l'employez, vous, cette expression « terrible tout » ou est-ce qu'elle vous dérange sur le principe ?
Bah, c'est que maintenant où les gens sont quand même énormément dans le discours de l'éducation bienveillante et positive, tout ce qui a une demi-connotation, et donc si on dit que c'est l'âge terrible, en fait ça veut dire que c'est une connotation négative et que donc ça ne va pas. Donc après, en fait, on perd un peu le sens derrière ça. Finalement, on s'en fiche qu'on l'appelle période d'individuation, d'affirmation de soi, mini-crise d'ado, terrible tout. Bon, en fait, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est de pouvoir aider les gens, effectivement, à cette période-là, qui n'est pas toujours la plus simple. On a besoin d'astuces. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a des êtres vivants en face de nous et qu'on ne parle pas la même langue et qu'on n'a pas du tout le mode d'emploi de ça.
Ouais, mais le mode d'emploi, c'est l'ambition de cette émission. En partenariat avec Bayard Jeunesse, préparée par Margot Page, réalisée par Anne-Cécile Perrin. Adèle Caglar est à la technique, c'est Barbatruc, jusqu'à 16h. Wild Child, c'était The Black Keys sur France Inter. Nous sommes le 2 avril 2022 et nous parlons du chiffre 2. Les 2 ans de l'enfant, une phase parfois surnommée le terrible tout, période pas simple durant laquelle l'enfant s'affirme, découvre le mot non et son pouvoir immense. Benjamin Muller de la Maison des Maternelles, émission de France 2, est mon invité, ainsi que 2 psychologues qui travaillent et écrivent ensemble, Aurélie Calais et Clémence Prompsy, autrice d'un livre intitulé Je ne veux pas, 250 astuces pour faciliter
le quotidien avec vos enfants. Benjamin Muller, on disait tout à l'heure que cette expression est un brin tragique, hein, le terrible tout. C'est aussi peut-être une manière d'en rire, de dédramatiser cette phase compliquée. Elle est vraiment compliquée.
Oui, bah, je suis complètement d'accord avec vous. Si vous voulez, quand je suis avec des copains, on dit pas terrible tout, on dit en fait il est hyper chiant et il a l'âge d'être hyper chiant et ça me choque pas non plus. En revanche, moi je trouve qu'il y a énormément de positifs dans cette période et je suis sûr qu'on va en parler. Moi,
alors,
je trouve
que c'est... commençons par ça, tenez.
Mais c'est une période qui est hyper émouvante, moi quand mes enfants ont cet âge-là, 2, 3 ans, même l'entrée en maternelle, parce que oui, ils commencent à dire non, etc. Mais ils s'affirment aussi, ils nous poussent dans nos retranchements. Moi en tant que parent, c'est là où j'ai l'impression que j'ai le plus appris. Quand ils commencent à dire non, puis surtout par moments, ils disent non. Puis tu réfléchis, puis tu dis, bah, au fond, il a pas tort. Il, sans être non plus dans le délire où l'enfant est exactement au même niveau que le parent et peut vraiment imposer ce qu'il veut, parce qu'évidemment, il faut un cadre, toutes ces choses-là. En fait, tout est la manière de voir les choses. Si on le voit comme ça, déjà, ça passe mieux. Je vous dis pas qu'il fait moins de colère après, hein, mais ça passe mieux.
Il se roule tout autant par terre au supermarché, vous m'assurez.
Ce qui est bien, c'est sympa.
On va y venir. Et que se passe-t-il précisément dans la tête de l'enfant, Aurélie Calais, pendant cette fameuse phase du non?
Bah, c'est vrai qu'ils sont un peu dans un entre-deux. Alors selon la manière dont ils ont accès au langage, certains à 2 ans parlent très très bien, d'autres vraiment ont un vocabulaire qui est hyper limité, donc ça crée de la frustration sur de la frustration. C'est l'âge où ils ont envie de tout faire par eux-mêmes, ce qui est super, mais nous ça va plus nous arranger honnêtement en tant que parents quand c'est le week-end et qu'on a un peu de temps que le lundi matin quand faut en déposer 3 à l'école et que là il part dans l'expérimentation de mettre les boutons de sa chemise et là vous êtes là ça ouais donc on fait à leur place mais on s'énerve donc lui en gros c'est vrai que c'est des moments un peu d'incompréhension parce que on comprend qu'il a envie de faire tout seul mais nous ça nous arrange pas toujours donc voilà ils ont envie de faire par eux-mêmes mais ils sont maladroits ils font pas bien donc faut trouver un juste milieu entre je te laisse le temps de découvrir ça veut dire un peu de bêtise un peu de casse.
Clémence Prompsy, la frustration, c'est quelque chose de très important à cet âge-là, apprendre la frustration.
Oui, alors c'est vrai que moi, j'appelle ça l'âge du dossier classé. C'est vrai que les enfants, parfois, se pètent des plombs sur des trucs. On se dit, mais il charrie, là, avec son assiette bleue. Je lui sors une assiette bleue claire, il voulait l'assiette bleue foncée. Et on en a pour 25 minutes. En fait, c'est vrai qu'ils sont dans une grande phase d'apprentissage. Ils sont dans l'imitation, ils veulent comprendre. Et donc, dès qu'on leur donne l'assiette bleue tous les soirs, c'est dossier classé. Je mange dans l'assiette bleue. Je sors de la crèche, je tourne toujours à droite. Et puis, si un soir, maman tourne à gauche, je pète un câble. Et maman ne comprend pas pourquoi. Parce que ça réouvre le dossier. Et donc, il y a des frustrations aussi qui sont toutes simples, toutes bêtes, parce que l'enfant a envie que ce soit tous les jours pareil. Sinon, il doit réapprendre le trajet de la crèche et il ne peut pas nous l'exprimer, il ne peut pas nous dire c'est pas comme d'hab.
Donc, vous conseillez aux parents de ne jamais rien changer?
Non, c'est une très bonne question. Vous avez raison de me pousser dans mes retranchements. Non, non, mais en tout cas, si vous devez changer d'assiette ou si vous devez changer de route,
trajet, ouais.
Vous pouvez vous dire, il a 2 ans, j'ai entendu une psy sur France Inter qui disait, effectivement, quand tiens un changement, il suffit de l'admettre et de dire mais dis donc t'as raison,
c'est exceptionnel,
exactement, c'est parce qu'on va acheter le pain, mais la maison c'est de l'autre côté, ne t'inquiète pas, on va repasser. Et normalement vous avez quasiment une crise sur deux à un âge, comme disait Aurélie, où ils parlent peu et donc ils expriment pas forcément, et vous aurez la moitié des conflits qui va s'apaiser.
On va écouter des parents. À quoi ressemblent les moments de crise? Notre reporter Juliette Proutot a recueilli quelques témoignages, quelques exemples concrets.
Je me souviens à Biarritz, on voulait aller à l'aquarium ou je sais plus, et puis elle voulait plus avancer. Et donc c'était piétinement, et j'ai donc vraiment porté mon enfant comme une planche de surf sous le bras, quoi, en hurlant. Tout le monde me regardait, et j'avais envie de la jeter par la falaise, j'avoue. Et en même temps, j'essayais d'être digne. En plus, j'étais en talons.
Et à un moment donné, on se dit, c'est la récurrence, en fait, et notamment du mot non, évidemment, qui est en tête de liste de son vocabulaire. Et là, on s'aperçoit qu'on est rentré dans une autre phase, de manière assez rapide. Et nous, il faut qu'on change de mode de fonctionnement avec le bébé, qui reste un bébé à 2 ans. Pour nous, ça reste quand même un bébé. Tout ce qu'il peut faire tout seul, finalement, où il a expérimenté le fait de pouvoir faire des choses tout seul, c'est vrai qu'il a du mal après à ce qu'on lui donne des ordres, en tout cas, ou des consignes, sur ces choses qu'il a réussi à appliquer au moins une fois tout seul. Donc, ça va être de l'habillage à aller au parc parce qu'il peut le faire tout seul, il veut pas qu'on lui tienne la main. Quand on monte les escaliers pour aller à l'appartement, et ben il y a un petit interrupteur, un petit minuteur. C'est lui qui doit absolument l'allumer. Alors si par malheur quelqu'un est déjà passé avant, la lumière est déjà allumée, et là c'est la crise parce que c'était à lui, c'était son petit pouvoir, sa responsabilité, en tout cas avec le pouvoir, mais de devoir allumer ça.
Par exemple, on rentre de la crèche et moi je veux juste aller vite parce que je porte un sac de course, on va chercher sa sœur, mais lui, le dépêche-toi, en fait, ça le bloque complètement et en fait, il a envie de te dire, bah non, en fait, je vais m'arrêter, là, je vais plus marcher. Tu te rends bien compte que c'est associé à des moments où toi, en tant qu'adulte, de toute façon, il rentre pas du tout dans ton schéma de grande personne où il a pas du tout les mêmes... Le temps, par exemple, lui, ça, il en a rien à faire, quoi. On sent bien qu'on peut tout désamorcer avec et du temps et énormément de diplomatie et beaucoup de diversion. Il faut utiliser la diversion tout le temps. Et c'est vrai que dès que moi, là, je perds patience, ça part en cacahuète. Mais c'est vrai que parfois, pour éviter le conflit, genre par exemple le choix du bol le matin, ou quand je me dis bon là allez je vais lui mettre ce jus là et ça part en cacahuète, je me dis pourquoi tu lui as pas laissé prendre ce verre plutôt que l'autre. Et du coup c'est juste qu'il faut avoir du temps quoi, parce que dans la vie il y a des horaires d'école, il y a des horaires de crèche, et dès que tu les bouleverses un peu avec ce temps qu'ils comprennent pas du tout le temps, enfin en fait tu veux dire quoi avec ça. Non, il y a un truc en ce moment, il fait un truc un peu énervant, c'est que quand du coup tu lui dis non à un truc, ça l'énerve, du coup il va dans son coin, mais pas loin de toi, et il dit le même mot. Non maman, non maman, non maman, non maman. Mais il fait ça exprès, je dis arrête s'il te plaît, ça commence à m'énerver. Non maman, non maman, non maman. Et du coup là il faut faire diversion, mais toi-même ça me dit.
Nous compatissons collectivement avec cette mère dont la patience est mise à rude épreuve. Qu'est-ce qu'on lui répond, Aurélie Calais, ce petit garçon, le fait-il exprès comme le pense sa mère?
Alors après, je trouve qu'elle a une analyse très juste, cette maman, parce qu'en fait, elle a les solutions, et elle dit, et d'ailleurs,
mais elle constate
juste
qu'elle n'y arrive pas, parfois.
Oui, mais en fait, elle dit, quand j'ai de la patience, quand je fais de la diversion, ça fonctionne, et c'est un peu toute la difficulté aujourd'hui dans l'éducation bienveillante, c'est que ça a l'air d'être hyper facile quand on le lit. Prenez le temps, recevez. Mais honnêtement, on n'y arrive pas du tout tous les jours, c'est impossible, et c'est ok en plus avec ça de pas y arriver tous les jours. Mais je trouve qu'elle a les bonnes clés de compréhension, et puis après elle a très bien compris ce que parfois les gens ont un peu plus de mal à comprendre, c'est cette notion de temporalité. On a nos contraintes d'adultes d'être en retard, lui dans l'absolu à 2 ans d'être en retard à la crèche, de toute façon on va le reposer sur un tapis. Il préfère zoner sur le trottoir, il a raison, enfin c'est vrai, il est avec sa maman, enfin pourquoi je vais me dépêcher pour aller à un endroit. Alors bizarrement, quand il faut aller dans un parc d'attractions qu'ils adorent ou leur séance de cinéma, ces jours-là, ça traîne moins. Donc voilà, il faut juste se rendre compte que nos contraintes d'adultes ne sont pas du tout les leurs.
Mais à quel âge comprennent-ils le temps, Clémence Pompsy?
Alors en fait, assez rapidement, on peut quand même passer par leur façon de faire, c'est-à-dire le jeu. Et donc on peut faire le jeu de la ponctualité. Et ce qui n'a strictement aucun intérêt, comme le dit Aurélie, peut devenir marrant si on décide qu'on va se challenger. Et que si on arrive à moins une, on est les méga champions du super monde.
Arriver à moins une, on peut faire ça à un enfant qui ne comprend pas l'heure, qui ne sait pas lire l'heure du tout.
Sur la montre avec la petite aiguille.
Oui, on peut. En fait, alors il faut se casser la tête. Et c'est vrai que parfois, ces histoires d'éducation, comme disait la maman, pourquoi j'ai perdu un quart d'heure alors qu'en fait, j'aurais dû prendre 3 minutes. Souvent, en fait, la bienveillance, comme le dit Aurélie, c'est aussi une question de temps et d'énergie. Parfois, il faut se prendre 3 minutes plutôt que de passer 15 minutes sur la crise. Nous, on aime beaucoup dire que quand on a 2 ou 3 ou 4 fois la même crise sur le même problème, la ponctualité, l'arrivée à la crèche, les chaussures, le bain, peu importe, il y en a plein, on peut créer une petite règle ou une petite astuce ou un petit jeu autour de ça pour que d'un coup l'enfant se ressente.
D'autres exemples de jeux, peut-être des chansons. Il y a beaucoup de chansons dans votre livre.
Moi, j'aime bien faire des règles.
C'est le moment de chanter, Clément.
Mais c'est vrai que j'ai fait mes règles en chanson pour qu'ils puissent les terminer. Parce qu'en fait, ils se conditionnent. En gros, j'avais un enfant à 24 mois qui n'arrêtait pas d'éclipser sa ceinture de sécurité. Le truc qui rend dingue. Parce qu'on redémarre et vous entendez au bout de 10 secondes, clic. Ouais. Et donc, on est obligé de réarrêter la voiture. Ouais. En plus, ça le fait hurler de rire. C'est un pouvoir extraordinaire. C'est une télécommande dingue sur maman.
Et puis, il voit bien que ça te fait péter les plombs devant.
Complètement. À la troisième fois, tu deviens dingue. Et puis, je ne peux pas le laisser sans ceinture. Donc, j'ai créé une règle qui s'appelle en voiture, on met toujours sa ceinture. Depuis, j'ai décidé qu'elles allaient toutes rimer. Je ne sais pas pourquoi, mais l'enfant, du coup, peut la finir. Et donc, au bout de 3 jours, je mettais son manteau et je lui disais, tu te rappelles, chaton, en voiture. Et il disait très vite. Et même s'il ne le disait pas parce qu'il ne sait pas parler, il peut l'entendre et il sait. Et donc après, je félicitais, j'applaudissais, j'en rajoutais un peu.
Ça n'est pas rien, ça. Applaudir, féliciter et souligner quand les choses vont bien. C'est important pour les enfants de 2 ans.
À propos de la ceinture, moi, j'ai une expérience à vous partager. À ne pas faire. Mon fils, pareil.
On s'inquiète là.
24 mois, pareil, mais c'était sur l'autoroute. Je m'arrête sur une première aire d'autoroute, je le rattache, je l'explique. Je retourne sur l'autoroute, il se détache à nouveau. 3e aire d'autoroute, je m'arrête à nouveau. Donc vous voyez, je suis un peu victime de tout ça. Et là, il y a des gendarmes sur l'autoroute. Je me dis, magnifique. Je prends mon fils dans les bras. On va voir les gendarmes. Et je leur dis, j'essaye d'y aller mollo. Je leur dis, messieurs, bonjour. Pourriez-vous expliquer à mon fils pourquoi c'est important de garder la ceinture? Vous voyez, j'y vais pas dans l'idée de traumatiser mon fils. Et là, le gendarme, je suis pas tombé sur Dolto. Il dit, mon gamin, si tu mets pas ta ceinture, je vais te mettre en prison. Il y a plein de méchants en prison.
Alors, un peu radical.
Un peu, ouais.
Mais tout est vrai. Et bah, depuis, étrangement, il n'y a plus de problème de ceinture.
Ce conseil n'est pas validé.
Non, pas validé. Je m'en suis un petit peu voulu.
Il n'avait peut-être pas encore d'enfant.
Non, je pense pas.
J'aimerais revenir sur ce mot qu'on a entendu à l'instant. Il le fait exprès. Cet enfant qui dit non, maman, non, maman, non, maman, elle pense que son fils le fait exprès. On entend beaucoup cette idée que l'enfant teste les limites ou qu'il manipule ses enfants. C'est pas des mots innocents, quand même. Est-ce qu'il le fait exprès,
non,
vraiment?
Non, c'est pas conscientisé. C'est pas dans le but de la réaction que ça provoque chez nous. C'est de l'énervement et de l'agacement et qu'on se dit il me cherche, parce que ça peut ressembler à ça, mais dans le vrai, dans le fond, l'enfant n'est pas mal intentionné. Mmh. Ben, vous voyez, comme les plus petits, quand ils jettent le truc de la chaise haute et qu'ils voient un adulte comme ça, pouf, il redescend, il réapparaît, il le fait 15 fois parce que c'est rigolo en fait. Donc non, c'est
mais,
jamais...
Même si l'adulte a l'air de pas trouver ça rigolo du tout.
Ouais, après, on peut aussi dire qu'on n'est pas content et pour autant que ce soit pas hyper clair pour eux. C'est en fait, il me répète la même phrase, il a l'air un peu fâché. Enfin bon, ça passe.
Il paraît que j'ai dit manipuler les enfants. Je voulais dire manipuler les parents. C'est un lapsus intéressant, non? Clémence Crompsy.
Alors c'est une vraie question. Est-ce que l'enfant est pervers et qu'il nous veut du mal? A priori, non, tout est bon dans l'enfant, mais je pense pas qu'il cherche nos limites ou qu'il les teste dans l'espoir de provoquer, mais ils ont besoin de limites, bien sûr.
Ils cherchent les leurs, en fait.
Voilà, ils cherchent les leurs, les limites du pouvoir, les limites... Et puis tout, et puis ils font des statistiques très rapides. Beaucoup de parents nous disent, pourquoi il ne le fait pas avec son père? Pourquoi moi? Eh ben parce qu'ils ont tout testé. Et qu'ils ont vu que 9 fois sur 10, maman au décibel 420, bon bah ça marche. Maman quand je rappelle, ou alors j'appelle 10 fois le soir quand je dois aller me coucher, parce que je sais qu'à la 10e ils vont se fâcher, mais il n'y a pas de raison de ne pas faire les 9 premières, parce que les 9 premières ils sont souriants. Et ils font des statistiques très vite, et ils savent en fait quand il faut s'arrêter.
Et d'attirer l'attention aussi, j'imagine.
Bien sûr.
Typiquement, à la sortie de la crèche, s'il se roule par terre, c'est peut-être aussi un moyen de dire à sa mère ou à son père, je sais pas, tu m'as manqué, passons un peu de temps en ce moment, j'ai pas envie que tu sois déjà speed sur ton téléphone. Ouais. En se roulant par terre, on sait que la maman ou le papa va devoir s'arrêter, etc.
Oui, parce que parfois, en fait, ça peut être une, tu as raison, ça peut être une demande d'attention, mais comme ils sont petits, ça peut être maladroit. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, derrière, le fait que je me roule par terre et que quand je te retrouve, je me mets à hurler, nous on se dit, bah, super, il est pas du tout content de me retrouver. En fait, si, sa figure d'attachement, son père, sa mère vient le chercher, sa figure d'attachement est là, il relâche tout. En fait, il est content de vous voir. C'est ce truc d'incompréhension. On
et le décalage entre l'acte
bizarre.
Et l'intention.
Exactement.
L'acte.
C'est et la réaction que... provoquée, ouais. Qui n'est pas forcément la réaction qu'il cherchait.
Allez, on reprend ces échanges sur les enfants de 2-3 ans. Dans un instant, j'ai un conseil à présent pour les ados. Conseil de lecture lié à l'actualité. Le magazine Phosphore propose un dossier sur la présidentielle. Pour que tu comprennes vraiment de quoi parlent les candidats et candidates à l'élection, on a décortiqué les mesures fortes, on a repéré les sujets qui divisent et qui rassemblent, explique Phosphore aux lycéens. Alors certes, la plupart des lecteurs et lectrices de Phosphore ne votent pas. Hein, le lectorat a entre 14 et 18 ans. Mais ça n'empêche pas de vouloir comprendre et ce dossier est très clair, très bien fichu, avec l'avis de chaque candidat et chaque candidate sur plusieurs grandes questions. Faut-il augmenter le salaire des profs? Doit-on repousser l'âge de la retraite? Doit-on donner des aides aux étrangers qui vivent en France? Doit-on légaliser le cannabis? Etc. Pour chaque question, qui est pour, qui est contre, avec quelques lignes de précision synthétiques et accessibles. À lire également un dossier sur le compte TikTok de chaque candidat et candidate, ça va plaire aux ados. Une analyse de leur stratégie de communication sur les réseaux sociaux. 100% présidentielle, c'est à la une de Phosphore de ce mois d'avril.
Ma bouche vit dans ta bouche, mes yeux vivent dans tes yeux. j'en fais partie. Je te prends, oui, je te prends comme on prend un pli. Car je te l'instinct et de la violence pour deux. Oui, je te l'instinct et de la violence pour deux.
Ouais.
Ma bouche vit dans ta bouille. Mes yeux vivent dans tes yeux. Qu'est-ce qu'il nous reste à part des gestes? Ma bouche vit dans ta bouille. Mes yeux vivent dans tes yeux. Qu'est-ce qu'il nous reste à part des gestes?
Barbatruc, Dorothée Barba.
C'était Fishback sur France Inter, programmation musicale Jean-Baptiste Audibert. Barbatruc a 2 ans cette semaine. Nous parlons de cette période, parfois pas simple, autour des 2 ans de l'enfant, phase de contestation, phase de crise. Benjamin Muller, Aurélie Calais et Clémence Prompsy sont mes invités. Et on va écouter à nouveau des parents, des témoignages de parents au micro de Juliette Proutot. Réponse à cette question, c'est quoi le plus difficile quand l'enfant a 2 ans?
Ce qui est dur, c'est... un peu le regard des gens, j'avoue. Surtout qu'on essaye, quand la crise commence, on essaye de se mettre à hauteur de l'enfant comme on a lu qu'il faut faire. Et vraiment être dans le dialogue. Je me souviens quand j'avais pas d'enfant, je voyais des enfants piquer des crises. Et j'étais toujours étonnée que les parents, du coup, aient lâché l'affaire et soient pas du tout dans le dialogue. Et moi, j'avais envie de dire, mais parlez-lui, demandez-lui pourquoi. Ben, en fait, quand on est témoin de la crise, il y a probablement eu déjà cette étape avant, c'est-à-dire on se met à la hauteur de l'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu tapes des pieds? Qu'est-ce qui te contrarie? Mais non, on ne peut pas manger de glace parce que il fait moins 5 et qu'il n'y a pas de glacier. Tu vois bien que la petite cabine de glace est fermée. Tu as beau taper des pieds, en fait, je ne peux pas chier la glace, quoi. Mais en fait, l'enfant, il comprend rien et il pète les plombs. Et donc, le moment terrible, c'est le moment d'après où on n'en peut plus. Donc ce qui est difficile à gérer, c'est vraiment la patience. De toute façon, la parentalité, c'est l'apprentissage de la patience. Enfin, c'est pas l'apprentissage, c'est juste qu'on se prend dans la figure qu'on n'a pas de patience. C'est le truc le plus éprouvant.
On a l'impression que ce sont des petits vieux aussi, c'est marrant parce qu'ils ont besoin de leur habitude. Donc cette incertitude, le fait d'avoir toujours une bombe H dans les mains, ça c'est fatigant.
Moi, je trouve que c'est cette période-là la plus difficile. Et d'ailleurs, quand j'ai des copines ou des copains qui ont des enfants et qui disent que c'est très dur au début, en fait, c'est quand même assez dingue de pouvoir habiller son enfant sans qu'il y ait de problème, le nourrir, le machin. Effectivement, il est beaucoup moins autonome, donc ça demande beaucoup plus de bras, de machin. Mais quand il commence à avoir 2-3 ans, il y a ce truc de, ben, en fait, il a un avis. Et du coup, c'est plutôt mentalement que ça commence à être la fameuse charge mentale. C'est mais comment me communiquer avec lui pour que ça se passe bien. C'est plus du tout automatique, on s'occupe d'un enfant, on sait ce qu'on fait, on change la couche, machin, ça devient vrai. On commence à éduquer une personne, et même l'éducation rentre vachement en jeu, de dire est-ce que je me fâche? Parce qu'en fait, avant, on se fâche pas sur un enfant, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à crier, à hurler, et de tout ce que ça sous-entend, parce que crier, hurler, on est d'accord que c'est interdit, donc du coup, il y a ce truc de... Il tire sur la corde et tu disjonctes, et je me dis, mais oh là là, tout joue avant 6 ans et tout. C'est moi, cette phrase-là, elle me fait pas du tout du bien.
Voilà, tout se joue avant 6 ans. C'est vrai que cette phrase pèse très lourd quand on est un peu à bout, Benjamin Muller.
Oui, bah moi on m'avait dit tout se joue avant 1 an, et tout se joue avant 3 ans, tout se joue avant 6 ans. Ils sont formidables, les parents qu'on entend. J'adore notamment la première. C'est vrai que quand on n'a pas d'enfants, on a des principes, et après on a des enfants. Je crois que ça, je le dis aux gens qui n'ont pas d'enfants qui nous écoutent, ne jugez pas les parents qui font mal. Votre tour viendra, les amis.
Le regard des autres, c'est très compliqué à assumer quand l'enfant fait une crise.
Oui.
Impressionnante.
Je dirais que c'est pour le premier enfant, c'est dur. Le deuxième enfant, on commence à s'y faire. Et le troisième, je m'en fous, mais complètement du regard des autres. Donc, si c'était à refaire, je commencerais par m'en moquer. Et c'est peut-être le meilleur conseil. Il faut vraiment se défaire du regard des autres, parce que sinon, on n'en sort plus. Et puis, tout le monde pense toujours mieux savoir que vous, etc. Faites-vous confiance.
Alors, vous diriez que ça, c'est plus facile pour le deuxième, le regard des autres.
Oui, on passe outre.
Mais le reste, la patience du parent face à la crise des 2 ans, est-ce que c'est plus facile pour le deuxième?
Ben non, parce qu'on vieillit.
Parce que t'es plus vieux.
Ouais. Si t'as ton premier enfant à 23 ans, t'es plein de fraîcheur, plein de patience. Le deuxième plus tard, le troisième, machin. Bon, c'est plus pareil à 40 ans. Et par ailleurs, moi, je trouve qu'on met des... Moi, je pense que j'avais des choses qui étaient importantes pour moi, pour mon premier enfant, qui l'étaient sans doute un peu moins, des principes que j'avais au début, qui l'étaient un peu moins. Par exemple, typiquement, le lien avec l'enfant, sans doute, je me mettais moins la pression pour le premier, où j'étais sur les trucs un peu plus mécaniques, c'est-à-dire l'hygiène, c'est-à-dire l'heure du bain, c'est 19h, l'heure du coucher, ça doit être 20h30. Surtout pas un écran. des principes comme ça, ou au deuxième, on va lâcher sur certains principes en se disant, bon, s'il a 2 ans et demi qu'il voit un pas de patrouille, il va pas être perturbé. Mais par ailleurs, en revanche, le lien avec sa grand-mère qu'il a pas vu parce que c'était le confinement, il faudrait que je fasse un... Je pense, on fait la charge mentale vis-à-vis des enfants évolue, mais elle reste tout aussi importante, je trouve.
Et même, c'est intéressant ce que tu dis, parce que quand il parle de quand on est jeune papa, jeune parent, que c'est le premier, en fait, il dit le 4, ça me rassurait de savoir à telle heure, ouais. On fait si... En fait, dans cette espèce de feuille de route, il faut se dire que c'est exactement pareil pour les enfants qui sont dans leur première vie et que finalement, les règles, le cadre. Et c'est marrant, tu dis, et deuxième, on se détend plus. Mais, et puis, en grandissant, on voit que les règles, quand elles ont été posées, c'est OK. Mais c'est vrai que ces règles, ce cadre, ça nous rassure, nous, en tant qu'adultes, et eux aussi.
Alors, comment vous expliquez ça aux parents qui viennent vous voir dans votre cabinet, Aurélie Calais, Clémence Prompsy, ce besoin de cadre, de mettre des limites, l'autorité sans pour autant être trop rigide, c'est compliqué hein, de trouver un juste équilibre.
Oui, c'est vrai que vous parliez de patience. Moi, je trouve que la patience, c'est parfois l'ennemi de la bienveillance. Il y a énormément de parents aujourd'hui qui ont lu des choses ou entendu des bricoles, parce que parfois, on n'a pas lu tout le livre, on a entendu que des phrases comme « tout se joue avant 6 ans » et on est complètement démunis. Être patient pour péter un câble, c'est malheureusement pas ça la bienveillance. Donc en fait, je dis parfois que être patient, c'est une mauvaise idée, que quand on demande une fois, on peut faire suivre d'actes dès la deuxième. Si c'est important pour nous, et comme on disait tout à l'heure, il faut choisir ses combats. Soit on lâche prise sur les tongs au milieu de la piste enneigée, soit on décide que c'est non, et auquel cas les tongs, tout de suite, on va les ranger à la cave et on va proposer un choix avec des moon boots ou des bottes. Et en fait, l'enfant sent notre détermination. Et quand on plante nos yeux dans son cerveau avec douceur, et finalement, quand on apprend à se fâcher avant d'être fâché, l'enfant se dit hein, je sens que je vais pas perdre trop d'énergie dans ce combat. Ouais.
C'est perdu d'avance. En revanche, s'il voit une faille, là, on est mort.
Se fâcher avant d'être fâché.
Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, du coup, c'est du bluff. On peut redevenir calme après.
D'accord. Donc, bluffer notre sévérité de parents, ou en tout cas nos exigences.
Notre fermeté, peut-être.
Bah, parce que souvent, les gens constatent que c'est terrible, il faut que j'en arrive à me fâcher pour que, en fait, ça s'arrête. Mais
écoute.
Bah, en fait, oui, on est dans une escalade qui sert à rien, tout le monde perd du temps, de l'énergie, et puis ce qui donne l'impression aux gens, je pense, qui est difficile à ces âges-là, c'est que les gens vont nous dire, nous, en consultation, franchement, c'est dur, j'ai pas de moment de plaisir avec mon enfant, on se fâche tout le temps, tout est une lutte, un combat. Donc oui, prioriser les choses, c'est important. Nous, après, ce qui est important, c'est de prendre en compte ce qui va être important pour chaque parent. Il y en a qui vont vous dire, moi, le bruit, je m'en fiche. Moi, le bazar, je m'en fiche. Voilà ce qui est
important. Dormir avec lui, ça me plaît.
Voilà, en fait, que chacun fasse comme il a envie de faire. Il n'y a pas d'injonction. Enfin, on peut tout défaire.
En revanche, quand on a une règle, on s'y tient tout de suite. C'est bien ça, votre...
Surtout si elle est importante pour vous, en fait. Et ça peut être n'importe quoi, et ça peut venir de votre propre enfance, et dire, pour moi, la ponctualité, en fait, je ne pourrais pas faire autrement, parce que on m'a crié dessus quand j'étais enfant, et qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'être ponctuelle. Et on explique ce qu'est la ponctualité à 2-3 ans. Pourquoi est-ce qu'on arrive tous à l'heure, à la même heure à la crèche? C'est pour démarrer une activité tous ensemble. Et on s'abaisse une ou deux fois à faire de la philosophie. Pourquoi on court pas dans un restaurant? Parce que c'est dangereux. Après, on va pas l'expliquer à chaque fois, on va pas se justifier à chaque fois, mais derrière, on donne une règle.
Pas à chaque fois. En revanche, on explique toutes les règles, à votre avis?
Ils écoutent tout, ils dévorent tout, en vrai, même ceux qui parlent pas. Il y a des crises d'enfants de 2 ans qui se jettent par terre sur le trottoir parce que vous avez passé le passage piéton au bonhomme rouge, alors que ça fait 3 mois que vous lui dites qu'on ne passe qu'au vert. Et il ne va pas vous dire, maman, tu n'as pas respecté ta propre règle, il va tomber par terre et il va hurler. Et juste lui, il a compris, en fait, qu'il y avait un souci.
Puis je pense que ce qui est important, c'est que très souvent, à ces âges-là, en fait, ça n'est pas, leurs manifestations vont pas être des manifestations raisonnables. Et nous, en tant qu'adultes, on va vouloir raisonner ce comportement en disant, mais tu vois bien que ça, c'est pas possible, que ça ne sert à rien.
Tu vois bien que la glace, c'est impossible.
C'est trop bien. Et en fin de compte, on va augmenter sa frustration. En fait, on lui enfonce le couteau. Tu vois, je vais pas le faire. Je vais, en fait, arrêter de parler. Voilà. Ça n'est pas possible. Et on passe à autre chose.
Souvent, en fait, le problème, c'est que les deux ne se sentent pas entendus. Une maman ou un papa, il hurle. Pourquoi? Il hurle parce qu'il ne se sent pas entendu par son enfant. Il répète, puis à un moment, il crie. Donc, on peut dire tout de suite, je me sens pas entendu. Il doit aller se faire entendre, le parent, si c'est important pour lui. Finalement, si c'est pas important, qu'il arrête de répéter. Et l'enfant, c'est pareil. Il ne se sent pas entendu. Il se sent pas entendu dans, tu as changé de route, je n'ai pas la bonne assiette. Finalement, se sentir entendu, c'est vraiment la première des choses.
Notre reporter a demandé à ces mêmes parents quelles solutions ils et elles avaient identifiées pour sortir des situations de crise.
On va essayer vraiment de savoir ce qui se passe pour essayer de débloquer des problèmes. Donc on a l'impression de jouer au détective privé tout le temps. Et de se dire, d'un point de vue statistique, de dire, bon bah ça a marché, ça n'a pas marché. Ça, il y avait telle occurrence de cet événement. Et donc nous, on se fait un peu une popote dans notre esprit en se disant, bon bah là, clairement, ça, on est sûr que ça ne marche pas. Mais c'est vrai que des fois, je perds patience, c'est souvent plus moi que la maman. Je vais perdre patience et m'énerver.
Moi, par exemple, je suis vraiment pas patiente et souvent je dis et je deviens folle, tu me rends tarée et tout. Et ça, le père, il dit mais arrête de leur donner ce mot-là de folie et tout. Bah si, c'est le cas. Ça me pousse dans des retranchements un peu. Et lui, il est beaucoup plus pisse, beaucoup plus patient, donc il a plus ce côté. Il désamorce les crises.
Lorsqu'ils rentrent à l'école avec les règles, le cadre, ils sont tout d'un coup projetés avec 20 élèves. À un moment donné, il y a moins l'individualité qui prend le dessus. Il y a un peu le collectif et donc ils intègrent aussi qu'il faut aussi peut-être écouter un peu plus les règles, quoi.
Ce qui est bien, c'est d'entendre ses copines voir faire pire. Souvent, quand tu racontes, tu dis « Oh mon Dieu, là là, mais j'ai tellement hurlé et tout ». Ah, oh, mais t'inquiète, moi je l'ai déjà mis sous l'eau froide. Ah, ok. Ah, oh, ça va, il y a toujours pire de toute façon. Ouais, ça aide d'en parler, mais après, moi j'ai toujours pour optique de pas crier et tout, mais en fait, en vrai, c'est difficile de pas le faire. Et parfois, il y a malheureusement que ça qui marche. Il suffit d'hausser le ton et ça se calme. Après, dans son petit cerveau de petit garçon ou de petite fille, est-ce que ça fait du bien? Je sais pas, mais ça marche, ouais, c'est ça le problème, c'est que ça marche. Et après, il faut pas le faire trop souvent et tout, mais il y a des moments où en fait, là. T'as pas d'autres solutions et tout.
L'autre jour, dans la rue, il y avait un papa qui était appuyé contre un mur et son enfant, littéralement, se roulait par terre et il regardait le ciel. Il attendait que ça passe et il était hyper zen. Et il y a des années, j'aurais dit « Oh, mais il en a rien à foutre !» Et là, j'étais là. Franchement, mec, la classe, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut attendre.
On en est comme de ronde flanc. C'est ça qu'il faut faire à votre avis aussi, Benjamin Muller?
Je dois dire que j'essaye ça des fois. Quand j'ai vraiment le temps et tout, je me dis ça peut durer un quart d'heure, je vais gagner, je m'en fous. Et moi je gagne rarement. Donc si cette dame me croise un jour, elle se dira peut-être c'est bien mon gars. Non mais au final ils ont quand même la patience en plus.
Mais vous regardez le ciel aussi pendant la crise?
Ouais, j'essaye. Mmh. Non, son téléphone quoi. Vous voyez, je fais genre je m'en moque quoi, je suis sur autre chose.
Diversion aussi, voilà, ça, c'est quelque chose d'important, c'est mieux, la diversion. Vous validez la diversion?
Oui, la diversion, parce qu'en fait, ce qui est très difficile à 2 ans, mais alors ça reprend à l'adolescence, c'est marrant, où il y a ce truc un peu auto-centré, où en fait, ils sont que dans l'immédiateté à eux. Et donc, quand nous, on vient demander de faire quelque chose, en fait, on est juste un gros casseur d'ambiance qui vient pas arrêter de les interrompre. Comme si vous, je sais pas, vous prenez un apéro avec vos copines et que toutes les 10 minutes, on vous dit, faut changer de table ou faut aller sur le trottoir d'en face. Vous direz, il est gentil, mais enfin, est-ce que je peux me poser tranquille sur mon apéro? Donc, c'est vrai que cette histoire de diversion, c'est de prendre quelque chose avec lequel il est en train de jouer sur l'instant présent. Il joue avec ses voitures, elle joue avec un camion, n'importe quoi, de dire, est-ce que tu penses que le camion coule ou flotte? Est-ce que tu penses que si on savonne les cheveux de ta poupée, ils vont changer de texture? Et là, en fait, on donne une dimension supplémentaire à son jeu. En fait, on le rend plus sympa. Donc, ils regardent, ils font « Ah ouais, bonne idée !» Et en fait, ils viennent. L'idée à 2 ans n'est pas d'imposer de l'autorité pour de l'autorité, parce qu'en fait, on va faire que se fâcher. Et puis, il y a des parents qui savent pas faire. En fait, il y a des parents qui sont très autoritaires. D'ailleurs, on voit bien, il y a même des adultes, quoi, une autorité naturelle, où même nous, on peut être là, ok, nous qui sommes pas très sages, parfois, on en voit certains, on fait ok, pas un mot. Il y a des parents qui savent pas faire, donc si on fait que c'est pas sa nature, on va faire pas bien.
Je reprends cet exemple qui est intéressant. L'enfant est en train de jouer avec une poupée, par exemple, et c'est l'heure de dîner. Plutôt que de se fâcher, de dire tu poses cette poupée, c'est l'heure de dîner, on commence par s'intéresser à la poupée.
Est-ce qu'on lui met un couvert à table?
À poser une question. Est-ce que tu crois qu'elle va s'ennuyer si on va dîner sans elle, etc. Rentrer dans le jeu pour mieux en sortir ensemble. C'est l'idée, Clémence Promsy?
Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai qu'on peut leur donner plein de choses par la parole et par l'imaginaire. Cette maman qui était devant ce glacier fermé, elle dit « je peux pas ». Et l'enfant répond « je veux ». On peut inventer quelque chose qui peut devenir rigolo en disant « c'est quand même casse-pied ces glaciers qui sont fermés ». Puis elle regarde, il pourrait y en avoir d'autres, il n'y en a aucun. C'est nul cette ville finalement.
Viens, on fait une manif.
Exactement. Et qu'est-ce qu'on pourrait inventer? Et toi, tu voudrais quoi comme magasin de glace? Et on pourrait inventer un Et en fait, on l'embarque avec nous et finalement, on va mettre plus d'énergie, non pas à se confronter à cet âge-là, mais plutôt à embarquer. Donc effectivement, on embarque la poupée à table, on l'embarque dans la baignoire, ou alors on invente un truc, parfois 3 gouttes de colorant dans le bain et d'un coup, ils sont dans l'imaginaire, puis ils sont doués pour ça. Donc c'est vrai que si nous, on peut les aider, les embarquer, c'est magnifique. L'affrontement, on gagne peu. Ils sont très très tenaces, très tenaces.
J'espère qu'elle nous écoute, cette maman face au glacier fermé, parce que la manif, inventer des slogans, voilà, ça c'est une piste qui à la fois qui peut à la fois booster la créativité de l'enfant peut-être.
Oui, et lui expliquer qu'il a le droit d'avoir envie de sa glace sans tomber dans ce travers de la bienveillance, de dire j'entends ta colère de vouloir une glace alors que le glacier est fermé.
De quelle couleur est l'émotion dans ton ventre en ce moment? Bien sûr.
Oui, parfois faut mieux arrêter de parler en fait.
Et ouais. Oui, il y a des moments aussi
où faut se taire.
Bien. derrière rideau. Hein, voilà.
Moi, c'est bien. You look like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are. Devil in disguise. You fool me with your kisses. You cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me. You're not the way you seem. You look like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are. Devil in disguise. I thought that I was in heaven. But I was sure surprised. Heaven help me, I didn't see the devil. Like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are.
Elvis Presley sur France Inter, une expédition dans la phase du non, ce moment où l'enfant de 2 ans n'est pas d'accord avec ses parents, autrement appelé Terrible Two. Les psychologues Clémence Promsy et Aurélie Calais sont mes invités aux côtés de Benjamin Muller, chroniqueur de la Maison des Maternelles sur France 2. Votre regard sur le Terrible Two a-t-il évolué au fil des années, Benjamin Muller, avec votre travail à la Maison des Maternelles et en tant que père aussi peut-être?
Je crois qu'on oublie, c'était dans un micro-trottoir, non, qu'on entendait. Je crois qu'on oublie.
Sinon on ferait plus d'enfants,
oui, je pense que beaucoup de femmes oublient les 3 premiers mois de la grossesse où elles ont la gerbe tout le temps. L'accouchement, je pense qu'on oublie un petit peu. Et le Terrible Two, j'ai l'impression qu'on oublie à chaque fois, chaque nouvel enfant, on se dit « Ah ouais, c'est quand même chaud cette période !» Mais oui, ça a évolué quand même. Là où je trouvais, ce que j'expliquais un peu tout à l'heure, que c'était une période super relou au début, en fait, je trouve que c'est une période qu'il faut prendre, c'est émouvant. Moi, je trouve qu'on voit vraiment un petit être qui passe de l'état de bébé à l'état de personne à part entière. À partir du moment où ils commencent à parler, à exprimer leurs émotions, à dire non à si eux. Puis en plus, ils disent pas que non. Si on écoute bien, même en disant non, en fait, ils nous disent des choses, on apprend des choses sur eux. Et une fois encore, moi, ça me renvoie beaucoup de choses sur moi-même. Donc, je vois cette période avec plus de bienveillance qu'avant.
On plaisante beaucoup depuis le début de l'émission autour de cette phase du non. Il faut quand même dire que c'est important de ne pas craquer, de ne pas utiliser la violence sur ses enfants et de demander de l'aide si on sent qu'on n'en est pas loin, Benjamin Muller.
Oui, et alors là aussi, notamment en maternelle, on a fait 1000 fois le sujet, la fessée, l'interdiction de la fessée. Ça date que d'il y a 3 ans, si je dis pas de bêtises, donc c'est tout récent. Et c'est vrai que le propos est toujours de dire ah, une fessée n'a jamais fait de mal, une fessée n'a jamais tué, taper sur les mains n'a jamais tué, etc. Vous avez raison de le rappeler. Alors peut-être que la petite fessée sur les fesses n'a jamais tué, mais moi je trouve que si à 2 ans on continue de mettre une petite fessée à son enfant, on lui apprend que par la violence on règle des problèmes. Et derrière, il faudra pas s'étonner si en rentrant de l'école, on apprend qu'il a tiré les cheveux de sa copine ou quoi, parce que si c'est le modèle qu'on lui donne. Donc ça, pour le coup, je pense que vu qu'on disait il faut se fixer 2-3 principes clairs, à mon avis, ça c'est un des principes qu'on doit se fixer. Et même si on est hors de soi...
Les cris, les hurlements, vous mettez ça aussi dans la case interdit et à proscrire absolument. Quel est votre regard là-dessus?
Ça dépend, nous c'est assez rigolo. On a fait des domiciles où moi je suis assez sensible au bruit. J'étais là, waouh, le niveau sonore dans cette maison. Et je voyais que eux, c'était pas du tout le sujet. En fait, c'était pas du tout ça pour qu'ils m'avaient demandé de venir. C'était pas un problème pour eux. Donc je pense qu'il faut faire en fonction de ce qui est important pour nous en tant que parents, et puis aussi à partir de 2 ans, où là effectivement ce ne sont plus des bébés, donc là l'idée c'est de leur apprendre par rapport à des choses éducatives et qui vont leur servir dans leur vie après d'interaction sociale. Et donc en gros, si nous à la maison c'est ok que tu hurles, En revanche, quand tu vas arriver à l'école, dans la vie en société, au resto, dans un train, en fait, tu ne peux pas parce qu'il y a des gens. Il faut aussi leur apprendre. Il y a nos valeurs et puis aussi les règles de la société pour bien vivre ensemble.
Elle parlait
c'est important.
Des cris de la maman.
Non, les deux, à vrai dire. Mais les parents qui crient sur leurs enfants aussi.
Ah,
qu'est-ce
oui,
que vous
oh,
en pensez
bah oui.
En tout cas, le but, c'est de pas rester malheureux. Et que si on ouais. est malheureux dans sa parentalité, bah, il n'y a pas de mal à passer un coup de fil et à se faire aider. Parce que vraiment, on a tous traversé des phases où on se dit, c'est pas possible, je suis nul, je vais pas y arriver.
Et puis, est-ce que pour ne pas culpabiliser tout le monde, on peut aussi dire que gueuler un coup de temps en temps,
ça remet tout le monde d'équerre.
Oui, mais je veux dire, il y a gueuler, mais je veux dire, élever un petit peu la voix pour dire, là, t'es allé trop loin, j'en peux plus, etc.
Je suis à bout, je suis fatigué.
J'ai mes limites.
Quitte à s'excuser ensuite auprès de son enfant si on s'en veut d'avoir crié, c'est pas grave de s'excuser auprès
bien
de son
sûr.
Enfant, même s'il a 2 ans, Clément.
Ah non, alors non seulement c'est pas grave, et puis vraiment on peut tous faire des écarts. Ça prouve même à nos enfants que quand on fait une bêtise, on peut la réparer, que quand on est maladroit avec quelqu'un, on peut s'excuser. Et le seul problème, c'est quand c'est tous les jours et que ça devient une vertu
oui.
éducative.
Si on s'excuse 6 fois par jour, là,
c'est qu'il y a un problème, effectivement.
Comment savoir que cette phase de la contestation est terminée? Est-ce qu'elle s'arrête un moment?
Quand j'ai dit oui, je le veux.
Non, alors en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des parents qui vont dire, bah moi, en fait, je l'ai pas trop senti passer. Et ce qui est terrible de dire que c'est à 2 ans, c'est qu'il y a des parents qui se disent, chic, il a 3.
Ouais, c'est fini.
Il me la fera pas. Mmh. Et parfois, ça peut être un petit peu plus diffus, ça peut être un petit peu plus tard. Donc, en gros, c'est comme tous les âges chez les enfants, l'âge de la marche, l'âge de machin. Sachez juste qu'à un moment donné, il va vouloir plus s'affirmer, plus vous tester, plus voir ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il a. En fait, il cherche ses limites, quoi. Donc,
et ça peut être à 5 ans.
Et ça peut être à 5 ans. Mmh. Et puis il y en a, ça va être vraiment très dilué. Et puis ça va être un petit peu plus dur à l'adolescence. Bon, chacun a ses plaisirs.
Allez, il est temps de plonger dans l'actualité du livre jeunesse. Vous restez avec moi, Benjamin Muller, Aurélie Calais, Clémence Prompsion. On se retrouve dans quelques minutes. Voici Denis Chessou et ses conseils d'albums pour enfants. Cette semaine, 2 bouquins qui portent de très jolis titres. Le goût de la vie et Soyons des jaguars. Bonjour Denis.
France Inter.
La tulipe, mon petit loup.
Bonjour Dorothée, bonjour à tous. On commence par Soyons des jaguars de Dave Eggers et Woodruff White aux éditions de l'École des loisirs à partir de 4 ans. Quand une mamie rend visite à ses petits-enfants, c'est toujours une fête. Mais parfois la timidité prend le dessus.
C'est la 2e fois que je la vois, elle habite loin. Ses cheveux sont très blancs et très très longs.
Sa présence est une bonne occasion pour les parents de notre héros de s'échapper.
Mes parents s'en vont et nous restons seuls.
Heureusement, la grand-mère du jour ne manque pas d'inventivité pour tisser des liens avec la chair de sa chair.
Ma grand-mère s'agenouille sur le tapis et grogne. Soyons des jaguars, dit-elle.
Être un jaguar n'est pas anodin et demande de s'appliquer pour être le plus félin possible.
Non, plus mince, bien plus rapide maintenant et plus féroce.
Ils sont désormais prêts à sortir, même s'il fait nuit. Oui, oui.
Nous parcourons la pelouse et au fond de l'impasse, nous glissons dans les bois. Je suis déjà entré plusieurs fois dans ces bois, mais je ne les avais jamais traversés.
Notre héros goûte à un nouveau sentiment de liberté.
Dans les bois, nous sautons sur les branches et faisons peur aux écureuils comme aux oiseaux.
Mais la promenade prend une drôle de tournure.
Lorsque nous croisons un lapin, ma grand-mère l'attrape, le dévore et m'en propose un morceau. J'ai pas envie de manger du lapin cru, alors je réponds que je suis allergique.
L'instinct sauvage semble s'emparer de ce duo insolite.
Les 2 jaguars traversent les lacs scintillants.
Courent à travers les plaines et les montagnes. Rien ne semble pouvoir leur résister.
Nous sommes quelque part dans l'Himalaya quand, soudain, je me rappelle que j'ai école.
Et alors il faut rentrer.
Nous revenons sur nos pas, lestes, rapides et féroces. Qui sait combien de temps j'ai manqué l'école? Mais ce n'est pas grave, ma grand-mère m'a fait un mot.
Alors quand l'étrangeté rime avec une étonnante liberté, Soyons des jaguars est un album qui invite au lâcher-prise. Au premier abord, il peut paraître difficile à cerner.
Mais le livre ne cesse de surprendre nos attentes et de défier le sens commun.
Eh oui, il brouille les pistes entre le fantasme et la réalité, jusqu'à parfois se révéler perturbant. Alors plutôt que d'essayer de trouver des explications rationnelles à cette excursion nocturne, rythmée par des illustrations à l'atmosphère un peu comme suspendue, le doute finit par être accepté pour mieux apprivoiser l'étrangeté de la vie. Donc Soyons des jaguars est une échappatoire au réel audacieux, un peu déstabilisant, mais on ressort de là en joie. C'est à l'École des loisirs, c'est à partir de 4 ans. Pour les 4-6 ans, cette fois, aux éditions du Père Castor, Le goût de la vie est signé Chiara Pastorini et Annick Masson. Marcelo est un petit garçon heureux avec sa maman qui est séparée de son papa. Alors il y a aussi Pablo et puis Michette, son lapin, qui se cache partout. Donc c'est du positif. Mais un matin, au petit déjeuner.
Maman, je t'aime très fort et j'ai peur qu'un jour tu ne sois plus là.
Alors elle manque de laisser tomber sa petite cuillère. Elle n'attendait pas la question et lui murmure en le serrant.
Moi aussi je t'aime très fort mon chéri.
Les journées s'écoulent, joueuses, écolières, heureuses. Mais dans ce train-train quotidien, quelque chose a changé. Un dimanche matin, Marcelo a du mal à se lever.
La voix de sa mère qui l'appelle résonne comme un écho venant d'un rêve plus profond que la mer.
Ah, il tristounet, vraiment, il peut rien avaler.
Je repense toujours à ça.
Bah, ça, c'est quoi ?
J'ai peur qu'un jour tu meurs, s'écrie-t-il presque au bord des larmes.
Alors elle lui explique qu'un jour, elle mourrait, oui, ça fait partie de la vie, tout le monde meurt.
Pense à notre tilleul. Ses feuilles sont pleines de vie, puis elles se sont détachées, meurent et se transforment pour nourrir l'arbre autrement. Dans notre cas, c'est un peu pareil.
Elle trouve les mots au fur et à mesure, elle le rassure. Mais tu vois, je suis en pleine forme, ce sera bien plus tard. Tu auras même toi-même des enfants.
Tu veux dire que la vie passe d'une personne à l'autre jusqu'à l'infini ?
Ah oui, en un certain sens, c'est un peu ça. Et donc, son petit cœur se dénoue. Alors, ces questions spontanées qui tuent arrivent vers 4-5 ans. Les parents ne savent pas bien quoi répondre, surtout dans une société qui glisse la mort sous le tapis. Donc, des questions profondes autour du sens de la vie, parler de philosophie sans en avoir l'air, c'est l'ambition de cette nouvelle collection qui s'appelle « Les Petites Lumières ». Et cet album, donc « Le goût de la vie », est signé Chiara Pastorini et Annick Masson au Père Castor. C'est pour les 4-6 ans. Éric Oswald, Denis Chessou, nous vous souhaitons de belles lectures et une bonne fin d'émission, Dorothée.
Merci beaucoup, Denis. On retrouve sur le site de France Inter à la rubrique « L'as-tu lu, mon petit loup ?» tous ces précieux conseils de lecture jeunesse. Les psychologues Aurélie Calais et Clémence Prompsy sont les invités de Barbatruc, aux côtés de Benjamin Muller, auteur de « Devenir papa pour les nuls » qui paraîtra bientôt chez First. J'ai une dernière question à vous poser à tous les trois. Question rituelle dans cette émission. J'aimerais connaître l'odeur de votre enfance, Benjamin Muller.
C'est en écoutant le nouvel album d'Aurel San que ça m'est revenu.
La pâte à modeler.
Bien sûr. Pas vous, franchement.
Franchement,
sa phrase exacte, c'est rien ne me ramène plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Mais en fait, et c'est vrai que du coup, mes enfants de la pâte à modeler, j'ai ouvert le truc parce que je suis un peu trop fan d'Aurel San en voulant mettre un petit rail de pâte à modeler.
Ça ne sent plus comme avant.
Ah bah si. Enfin moi, ça m'a replongé dans mon enfance.
Mais donc, c'est moins fort que quand on était petit.
Peut-être, mais il devait y avoir plein de perturbateurs endocriniens quand on était petit. C'était pas terrible. Je pense que c'est un peu plus bio maintenant. Donc voilà, la pâte à modeler, ça j'aime bien.
Et vous, Aurélie, quelle est l'odeur de votre enfance ?
Moi, j'ai le souvenir des feutres qui étaient à paillettes et qui avaient chacun une odeur différente selon la couleur.
Perturbateur endocrinien. Cherchez pas.
On est sur des odeurs pleines de nature, de biodiversité. Clémence Prompsy.
Alors là, vous allez adorer la mienne. Évidemment, pour moi, l'odeur de mon enfance, c'est l'essence. Voilà. Autre odeur de Zorzane.
Mais ça aussi, c'est
Aurélie Gazon. La tondeuse à gazon et le zodiaque. Voilà.
Elles sont sublimes, les odeurs de la semaine. L'essence,
la pâte à modeler. Essence, on est tout content.
Le feutre à paillettes. Je ne veux pas, c'est le titre de votre livre écrit à quatre mains, Clémence Prompsy, Aurélie Calais, édition De Buck. On recommande aussi, sur un autre sujet, mais tout aussi important pour les parents, Je ne dors pas, même éditeur. Devenir papa pour les nuls de Benjamin Muller sortira dans quelques semaines. Et pour les jeunes lecteurs et lectrices, on recommande Le Palais de Paul, chez Flammarion Jeunesse. C'est l'histoire d'un enfant de 7 ans qui vit à l'Élysée parce que son papa est président de la République. Le podcast Encore une histoire que vous co-signez avec Céline Kallmann. Des histoires qui durent autour de 10-12 minutes. C'est idéal pour occuper les enfants sans le moindre écran. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci et à bientôt sur France Inter.